planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève avec Paul-Raphaël Charon et Marc Boilard. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
FM 93, ça me parle.
7h02, nous sommes dimanche le 6 janvier 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. Mon nom est Paul-Raphaël Charon. On est ensemble pour les trois prochaines heures, mais nous ne sommes pas seuls. Oh non! Je suis accompagné, bien évidemment, de Marc Boilard et Kevin Dupont. Messieurs,
salut!
Hola. Salutations cordiales.
Kevin Dupont, je souligne qu'il a l'air d'un sentinelle de l'air ce matin, avec ouais. Son espèce de soupe jaune et bleue.
Ben, comme le veut la légende, Kevin se réveille toujours bien peigné.
Ben oui!
Même la nuit, quand il va aux toilettes, oui. Faire son petit pipi nocturne, oui. Il est bien peigné.
Exact. 24 heures.
Systématiquement. Il a des cheveux de plomb. Bon, alors
parle. Un soldat de plomb.
Cheveux de plomb, allons faire le tour des nouvelles, si vous le voulez bien.
Ouais, ben il y a un homme qui se serait possiblement introduit à l'intérieur d'un appartement situé au 168 de la rue Seigneuriale à Beauport pour y commettre un vol qualifié. Hier matin, au moins un individu a fait irruption dans un logement, justement, de cette rue. Deux personnes se trouvaient alors à l'intérieur. Un homme et une femme âgés, tous les deux, de 22 ans, qui auraient subi des blessures mineures. Il y aurait eu altercation et le suspect aurait pris la fuite par la suite. Le service de police de la Ville de Québec recherche un ou plusieurs individus ainsi qu'un véhicule suspect. Des techniciens en identité judiciaire et des enquêteurs se sont déplacés sur les lieux. Une enquête est présentement en cours.
Ça a l'air qu'ils cherchent d'ailleurs justement un gars qui répond à la description suivante. Toujours bien peigné, même oui. La nuit, aux cheveux de plomb.
Exactement. On se demande c'est qui, mais c'est qui?
Malheureusement, je n'étais pas dans le secteur Beauport. J'ai un alibi.
Comment ça tu dis que c'est toi? J'ai pas prétendu que c'était toi.
Parce qu'hier, j'avais un alibi. J'étais avec vous, ici.
Moi, okay, c'est un bon alibi. Okay. Ouais, okay. Poursuivons.
C'est toi ou l'équivalent en plâtre, on le sait plus exactement.
Un peu plus sérieusement, l'Association des stations de ski du Québec appelle à la prudence après deux accidents mortels survenus récemment dans des centres de ski. Un planchiste de 22 ans est mort vendredi après avoir effectué un saut sans portée de casque dans un parc à neige du Mont-Lac-Vert au Lac-Saint-Jean. Deux jours plus tôt, une adolescente de 15 ans a perdu la vie en sautant d'un télésiège au Mont-Vidéo en Abitibi-Témiscamingue. Et aux États-Unis, c'est toujours l'impasse. On n'est pas encore arrivé à mettre fin à la paralysie partielle du gouvernement qui perdure depuis 15 jours. Une rencontre entre le vice-président Mike Pence et des représentants du Congrès n'a rien donné, mais Mike Pence a qualifié la session de productive. Les démocrates ont demandé une fois de plus la reprise complète des services, ce qu'a refusé la Maison-Blanche.
Maximum moins un cet après-midi, qui est déjà atteint, soit dit en passant, le maximum pour aujourd'hui. Là, je me croise les doigts. On espère qu'on ne perdra pas de degrés, parce que sinon, Marc menace de me casser la gueule à chaque fois.
Non, aucune violence.
Non, mais casser la gueule d'un regard désapprobateur.
Ah ben oui, il y a beaucoup de mépris, beaucoup de mépris.
Ouais, c'est ça. Alors, max moins un, quelques flocons ce matin, mais ça va cesser en courant de journée. Ça reste nuageux pour l'après-midi. Le ciel va se dégager au courant de la nuit prochaine. Le mercure chute, minimum moins 17. Demain, plein soleil pour le retour au travail universel.
Bravo.
Max moins 11 pour demain. Présentement, c'est moins 1 à Québec.
Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal s'est incliné 4-1 face aux Prédateurs de Nashville hier soir. Le capitaine du tricolore Shea Weber a été le seul à trouver le fond du filet de son ancienne équipe. Piqué Souben, de son côté, a récolté deux mentions d'aide pour aider les Serres à repartir avec les deux points. Carey Price a réalisé 28 arrêts dans la défaite. Le Canadien qui va accueillir demain le Wild du Minnesota. Hockey junior, victoire de 4-3 en prolongation des Remparts face au Moussets d'Halifax. Le nouveau capitaine Étienne Verrette a marqué son premier but de la saison en période de surtemps. De son côté, Jérémy Laframboise a récolté trois mentions d'aide dans la victoire. Québec jouera son prochain match mercredi au Centre Vidéotron. Les Olympiques de Gatineau seront les visiteurs. Et au championnat mondial de hockey junior, la Finlande s'est octroyée une troisième médaille d'or en 6 ans en l'emportant 3-2 aux dépens des États-Unis. L'un des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, le Finlandais Kaapo Kakko a déjoué le gardien américain avec moins de 2 minutes à faire au match pour ainsi marquer le but de la victoire. Et plus tôt dans la journée, la Russie a mis la main sur la médaille de bronze en l'emportant 5-2 sur la Suisse.
Ça compte-tu comme une consolation, le fait que la Finlande ait gagné, Kevin?
Ben...
Ouais, le Canada a perdu contre la Finlande, ouais, là, mon Dieu, tout le monde capotait. Là.
C'était les plus forts.
Genre, OK, le capitaine du Canada, suicide-toi vu qu'on a perdu. Je fais allusion aux niaiseries qui ont été écrites sur les réseaux sociaux de Maxime Comtois.
On peut toujours se consoler en disant, bon, l'équipe qui nous a battus, c'est l'équipe qui a gagné.
C'était la meilleure équipe du tournoi.
C'est vrai.
Mais il faut se dire qu'il y avait quand même déjà des... Tu sais, oui, dans chaque équipe, il y a tout le temps des bons espoirs en vue pour la Ligue nationale de hockey, mais il faut dire que la Finlande... J'imagine, Paul, ou même Marc, vous avez peut-être regardé quelques segments du championnat mondial de hockey junior.
À gauche, à droite, oui.
C'est ça, un peu comme tout le monde. On n'écoutait pas tous les matchs, mais j'ai pogné quelques bouts de la Finlande. Et sérieusement, là, le programme finlandais s'est développé depuis des années. Ouais. C'est surprenant. Ouais. Ils jouent comme des équipes nord-américaines qu'on
les voyait. Scandinaves, en général, à la dernière Coupe du monde, ou je sais pas quoi, championnat du monde, ou c'était-tu aux Jeux olympiques, je me souviens pas, mais bref, la dernière fois qu'on a vu les seniors en action, la Suède aussi, là, ça faisait... Ouais. C'était très, très fort. Là. Il y a évidemment le Danemark qui traîne encore un peu de la patte. La Norvège, ils sont pas là pantoute. Mais Finlande et Suède, vraiment, les programmes de hockey sont très impressionnants.
C'est impressionnant aussi parce qu'il y a déjà des joueurs dans ces formations-là qui évoluaient avec des équipes de la Ligue nationale cette année et qui ont été comme rétrogradés au niveau junior, justement, pour faire le championnat mondial.
C'est quoi le règlement junior? Y a-tu un âge maximum ou ben c'est...
C'est 20 ans, en fait.
OK. Ouais. C'est ça, le, dans le fond. Le,
c'est ça, exactement. D'âge junior, comme exemple, dans la LHJMQ, les joueurs ont jusqu'à 20 ans. Okay. Pour le championnat mondial...
C'est pas même 19, non?
Pour le championnat mondial, il y a des joueurs qui ont 20 ans.
Ah oui? OK. Ouais. Ah, mais en même temps, c'est ça, ils ont 20 ans... Mais il faut qu'ils soient quand même prêtés par leur équipe de la Ligue nationale,
ouais,
ceux qui sont pêchés.
Exactement.
Pour ça que, parce que je disais que la majorité des joueurs ont 19, puis les plus jeunes ont quoi, 17, genre.
Ouais,
mais Alexis Lafrenière et
c'est ça, c'est une
17,
exception.
Là.
Normalement, les joueurs vont comme avoir au moins 18, parce que souvent, il y a une compétition internationale, c'est des moins de 18 ans.
OK.
Donc, mais même Alexis Lafrenière, c'est comme une exception à la règle. Mais tu sais, je pense, la Finlande, par exemple, Eli Tolvanen, c'est un des meilleurs espoirs des Prédateurs de Nashville. Jouait toute la saison avec Nashville et là, a été prêté à la Finlande. Vous comprenez?
Parlant
que...
de Nashville, oui. Soirée de rêve hier pour notre ami Kevin Bridge,
oui, hein?
Qui est un des seuls partisans de Nashville, de l'ère pré-Piquet-Subban,
c'est vrai.
À Québec.
Il était déjà là, lui.
Écoute, il était fan de Nashville avant Piquet-Subban. À Québec, honnêtement, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Les fans des Prédateurs et non pas les fans de Piqué.
Comme Minnesota, là. Tu fais comment? Ah ouais, il y a un gars à Limoilou qui a déjà entendu parler du mot Minnesota. Il s'est trompé avec les gens. C'est le Kraft Dinner, il s'était pas clair.
Mais tu sais quoi, l'autre fois, en plus, là, je pense que c'était la semaine passée, à la veille du jour de l'an, tout de même, je me promenais à Québec et j'ai vu une famille, le père, la mère et même l'enfant, les trois portaient une sucre des Prédateurs.
Ah,
j'ai l'impression, tu sais, comme que t'es comme un touriste dans un autre pays. Puis t'es salut, t'es comme, hey, je suis là.
Ah oui, c'est ça, ouais, c'est on se connaît.
Mais ça veut dire qu'il y a ces trois-là, toi, puis il y en a peut-être un autre qui s'est trompé
en
achetant.
Ils nous écoutent, textez-nous.
Ils se sont trompés en achetant le casquette, là, tu sais. Mais soirée de rêve, donc, pour toi hier. Les Prédateurs au Centre Bell qui gagnent, et le seul but des Canadiens vient de chez Weber, ancien des Prédateurs.
Chez Weber, qui est mon idole, il faut le mentionner aussi.
Oui. Bon, tu devais jubiler, toi,
écoute,
hier.
Écoute, moi, j'étais super heureux.
Il est même venu frimer dans le studio ce matin en arrivant vers, je sais pas, il était très tôt, là. Ben, ça veut dire qu'il est venu faire son pense-bon. Il est venu me montrer qu'il avait mis son petit jacket des Prédateurs. Puis me dire, as-tu regardé le match hier?
Paul? C'est pour ça que je te dis qu'il a l'air d'un sentinelle de l'air. Les gens voient pas, mais il y a une rayure jaune dans le milieu. Puis c'est tout bleu le reste.
Et puis sa belle coupe de cheveux, toujours droite aussi.
Son petit képi mauve aussi, tu exagères. Là,
mais tu sais qu'il y a des partisans des Canadiens qui étaient furieux hier. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Parce que le match... était quand tu vas au Centre Bell, dans le fond, puis il y a plusieurs matchs, là, il y a comme différents types de matchs qui te forment une fourchette de prix différente pour les billets. T'as des matchs plus importants que d'autres. Genre, quand les Canadiens accueillent les Maple Leafs ou les Bruins de Boston un samedi soir, c'est un match premium.
Premium ou
là,
prestige.
C'est genre, c'est ça, ou prestige. Puis c'est 20 à 40 piastres de plus à peu près en moyenne le billet.
Okay.
Grosso modo, c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui étaient furieux parce qu'ils disaient... Les Prédateurs de Nashville, c'est vraiment pas un match premium. C'est pas les Maple Leafs. C'est pas une rivalité de section. Puis là, ben, vu que c'est Piquet-Subban, celui que les Canadiens ont décidé d'échanger, il nous colle un match premium parce que nous autres, on va aller voir notre petit Piquet chéri d'amour.
T'sais. Mais en même temps, c'est ça, c'est à cause d'un joueur. Je prends juste les Capitals de Washington quand ils viennent au Centre Bell, c'est uniquement pour Ovechkin. Il n'y a aucune autre raison. Si Ovechkin n'était pas là, il y aurait...
Mais c'est des matchs premium.
Mais c'est ça, c'est des matchs premium.
C'est pas une rivalité naturelle, Canadiens-Capitals. C'est pas les Bruins, c'est pas... bon.
Je veux juste vous dire ça ce matin, vous et moi, là, dans chaque équipe, il y a une vedette. Fait qu'il faudrait, tu sais,
à tous les partisans partout, là.
Alors.
Comprends-tu?
Comprends, moi, pourquoi il y a des partisans qui étaient fâchés. Parce qu'à quelque part, c'est vrai que les Canadiens de Montréal, c'est un peu un monopole, là. Tu sais, dans le sens où.
Oui.
C'est un peu, il y a pas de Nordique, il y a pas, tu sais, l'autre option pour les partisans de hockey, c'est les Sénateurs. C'est à Ottawa, c'est loin. Donc, c'est vrai que c'est un peu un monopole.
Ou les Prédateurs, vous pouvez venir me rejoindre. J'ai un fan club, là. Je vous accueille, il y a de la place.
Oui.
Les Prédateurs d'amour de Kevin Bridge.
Exact.
Mais, peu importe. Il y a quand même une règle qui s'appelle l'offre et la demande, là. Mm-hmm.
Puis les Canadiens, s'ils augmentent le prix des billets de 20 à 40$ parce qu'ils disent que c'est un match prestige, puis qu'ils vendent moins de billets à cause de ça, ils leur feront plus.
C'est tout.
Mais s'ils vendent les billets parce que le piqué chéri est là...
Oui, mais ça, ça s'appelle faire affaire sur Internet, Paul, là, c'est très drôle parce que moi, ça me parle.
Oui.
Faire affaire sur Internet...
Comme le FM 93, ça me parle.
Ça me parle.
Faire affaire... Excuse-moi, je peux pas manquer celle-là.
Parfait. Faire affaire sur Internet, moi, j'ai toujours résumé ça dans une phrase, c'est judicieusement frustrer ton client.
Ben oui, c'est
C'est-à-dire,
ça.
C'est-à-dire...
Ah oui.
Caroline, je veux pas payer pour telle chanson de puis là ça me fâche, mais finalement tu payes pareil. Mais c'est, vois-tu, c'est que la phrase c'est t'as payé pareil. Mais si t'es tellement fru que tu t'en vas du site, puis
t'as dépassé la limite.
C'est ça. C'est que c'est judicieusement frustré ton client.
C'est drôle, j'avais une discussion avec un collègue l'autre fois sur les restaurants. Tu reçois ton assiette, puis c'est pas exactement ce que... C'est-tu avec toi qu'on parlait de ça? En tout cas, tu reçois ton assiette, puis c'est pas exactement ce que tu veux. Oui, c'est avec toi qu'on parlait de ça.
Ah bon?
Ben, il y a un problème avec ton assiette, je sais pas, là. Genre,
c'est rare. T'as retourné-tu?
T'as retourné-tu?
Ouais, je me souviens. Ouais.
Puis là, après ça, disons que tu fais juste dire au serveur, ouais, c'est pas exactement comme je l'avais demandé, tu sais. Mm. J'avais demandé pas d'oignon, ou tu sais...
Mettons.
Pas, ils se sont trompés littéralement d'assiette, là.
Ouais,
juste,
ouais.
Il y a une petite affaire qui te dérange, pas assez pour que tu la retournes nécessairement. Qu'est-ce qu'il doit faire le restaurateur à ce moment-là? Il y a plein d'affaires, plein de possibilités qui s'offrent à lui. Moi, je veux pas retourner des assiettes dans un resto, ça me fait bien peur parce que j'ai tout le temps l'impression que le cuisinier va cracher dans mon plat. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est un mythe, mais...
Ben...
Non, allez, un instant.
Ça dépend ce que tu demandes.
Moi, j'ai un chum qui a travaillé dans une cuisine. C'était pas un grand resto chic, là.
Ouais.
Mais sans dire qu'il crachait dans les assiettes du monde, il me disait, j'ai déjà vu un cuisinier assez en maudit pour faire une niaiserie qu'une assiette.
Mais
il a pas voulu me dire quoi.
Ouais, OK.
Mais fait que moi, depuis ce jour-là, je prends plus de chance.
Ouais, OK, je suis correct. Mais je veux dire, tu sais, quelqu'un qui retourne une assiette en disant, vous êtes toute une gang de colons, ton chef, c'est un innocent, ça, c'est une chose.
Ouais.
Si tu fais juste dire manque d'oignons.
Mais là où je veux en venir, c'est que, dans le fond, le restaurateur, là, il faut exactement qu'il fasse le même principe que ce que tu viens de nous expliquer avec l'Internet. Judicieusement frustrer son client. Dans le sens où, si, mettons, je sais pas, moi, l'assiette au complet est mangée, puis qu'il te redonne une assiette neuve, ou il te la paye, ou je sais pas quoi. Peut-être que lui, il va avoir des pertes, puis ça l'écœure, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il peut pas tout reprendre tout le temps.
Ouais, c'est ça.
Mais, il faut qu'il s'organise pour que tu reviennes, puis que le client lui fasse pas une sale réputation.
Exact.
Qu'il aille pas sur Internet mettre des commentaires de merde sur les différents sites de tourisme.
Ça les affecte, là. Moi, j'ai pas d'amis en restauration, puis il me dit souvent, ah, là, je sais c'est lequel, là, c'est un client hier qui est venu, puis après ça, il est allé sur TripAdvisor. Ça les gosse, là, parce qu'il y a du monde qui lit ça. Ben oui.
Mais bref, pour en revenir au match des Canadiens, je suis obligé d'avouer que le Centre Bell était plein hier. Tout le monde a parlé du retour de Piqué par an à 48 heures avant. Tu sais, à un moment donné... Moi, je trouve ça un peu normal.
Un match premium.
C'est un événement.
S'il y avait des Nordiques de Québec, peut-être ce serait différent. Probablement que le fan de hockey gagnerait au change. C'est-à-dire que les billets seraient peut-être un peu moins chers. Puis des matchs premium contre les Prédateurs de Nashville, il y aurait peut-être moins de monde. Parce que les gens de Québec, au lieu d'aller là, ils attendraient que Piqué vienne à Québec. Puis, bon,
c'est vrai.
La compétition, ça a ça comme impact. Ça fait baisser les prix.
Ce que je trouve, désolé, mettons plus un peu sur la sphère hockey, ce que je trouve dommage, c'est que Subban est utilisé à Nashville comme quatrième défenseur. T'sais, on parle uniquement de lui, mais ça va dans le même sens pour plusieurs équipes. Souvent, on va parler d'un joueur en général. Mais le reste de l'équipe, il y a pas mal des joueurs meilleurs que lui, vous comprenez. C'est juste que lui, c'est un ancien du Canadien, donc c'est normal qu'on en parle un peu plus.
Tu me dis que Subban, c'est même pas le défenseur numéro un.
Non, c'est le quatrième.
Ben, tu me niaises.
Il y a Roman Yossi en premier, Ryan Ellis en deuxième, Mathias Ekholm en troisième et Piqué Subban qui vient compléter le couloir.
Piqué Subban joue sur la deuxième paire avec un gars qui s'appelle Mathias Ekholm, que je pense qu'il y a un point sur tous les buts hier. Mathias Ekholm, hier, il a été largement meilleur que Piqué Subban. Bon, pour être honnête, là, les gens qui connaissent le hockey savent que les Prédateurs de Nashville ont une des meilleures brigades défensives de la Ligue aussi. Il y a bien des équipes dans lesquelles Subban serait sa première paire,
Mais c'est assez ironique qu'un quatrième défenseur soit payé comme 9 millions.
Je pense que Roman Josi fait même pas la moitié du salaire de Subban.
Non,
c'est le capitaine et défenseur numéro 1.
C'est un peu frustrant, ça.
Mais c'est drôle, Roman Josi, lui, s'est pas fait huer hier. Ça, on l'attendait, qu'il se fasse huer. Au début, c'était plus timide. Là, les gens osaient pas trop le huer. Puis à partir d'à peu près milieu de la deuxième période, c'est drôle, Patrick Lalime de TVA Sport qui faisait l'analyse du match, il disait...
Souban, ça tu parles?
Ouais, Souban. Okay. Il disait, ouais, mais je pense que c'est Félix Séguin qui décrit le match. Il dit, ah, puis Kay Souban se fait pas huer. Patrick Lalime, il dit, ouais, mais attends, le match est jeune. Tu sais, il y avait 10 minutes de jouer dans le match. Ouais, le match est jeune.
Attends qu'il y ait une ou deux mises en échec.
Ah, là, c'est ça. Ouais, une bonne mise en échec ou un tir sur le poteau, là. Ou attends que ce soit 1-0 pour l'autre équipe ou quelque chose comme ça. Et comme de fait, évidemment, il s'est fait copieusement huer à partir de début milieu de la deuxième période. Et c'est drôle parce que j'ai lu sur Internet, puis après ça, je ferme la parenthèse sur le hockey, là. J'ai lu sur Internet quelque chose qui résume exactement ma pensée. On parlait hier de « Ah, Souban se fait huer, c'est-tu irrespectueux ou non? » Il y a des gens qui trouvent que ça n'a pas rapport qu'il se fasse huer. Puis un partisan sur un des groupes Facebook de partisans desquels je fais partie, parce que je les suis tous, hein, évidemment, il dit « Ouais, ouais, mais pas stress, c'est la tradition. »
La tradition?
C'est vrai! C'est la tradition.
De huer un joueur qui était anciennement...
Une ancienne superstar.
C'est probablement une tradition.
À moins que ce soit là, le plus gentleman des gentlemen. Là.
Excuse-moi, mais Shea Weber se fait jamais huer à Nashville. Là.
Non, mais j'ai pas dit que c'était la tradition de tes championnateurs chéris.
Je sais bien.
À Montréal, là, ouais. Chez nous, la tradition, c'est quand t'as un bon joueur qui s'en va de notre équipe,
d'un échange.
Il n'y a rien demandé, Piqué. Là.
Non, non.
Pas comme, par exemple, Pat Charity qui a dit « Vous m'échangez absolument à tout prix. »
Ouais, 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 ouais.
Souban, lui, à la grande surprise, oups, stupéfait.
Quand Wayne Gretzky revenait à Edmonton, il se faisait tuer. Ça se peut pas.
Pense
ça se peut pas. Il a démoli la ville au grand complet.
Non, mais à Montréal,
je parle émotivement.
On eut nos anciennes amours. Ouais. Qu'est-ce que tu veux?
Ça se peut.
C'est comme ça.
Ouais.
Ça fait partie du jeu.
Ah, je trouve ça un peu bête, là, mais.
Comment ça, bête?
Là, hey,
peux-tu avoir du fun un peu?
Ben non, je sais bien, mais tu eus une personne que t'as adorée pendant des années, puis oui. Là, du jour au lendemain, ah, crime, tu l'aimes plus.
C'est une relation amour-haine. Ouais. C'est des huées d'amour.
C'est ça.
On
a à Montréal, notre façon d'aimer les. Moi, je reste pas à Montréal, là, mais les partisans des Canadiens, notre façon d'aimer nos anciennes amours, là, c'est de leur dire chou!
Ça se peut. Ben, encore une fois, à lutte.
De pas
aimer les méchants fait vraiment partie de ton fun.
Ouais. On va se lancer dans le journal. Mm-hmm. Hein? Ma nouvelle, c'était ça. C'était là, OK. Tu veux me parler des gilets jaunes, Marc?
Une petite actualisation sur mon point de vue.
Moi, je pensais que c'était vraiment rendu à l'étape où ça s'essoufflait tellement, ce mouvement-là des gilets jaunes.
50 000
en France,
personnes hier, un peu partout en France.
C'était la fin, mais 50 000, c'est plus que la fin de semaine avant.
Oui,
ça.
Oui, parce que là, c'est en train de se... Alors ça, c'est mon observation, parce que, disons-le, d'entrée de jeu, là, c'est un mouvement qui est réellement populaire. Tout le monde essaie de dire que tous les mouvements sont populaires. C'est un mouvement réellement populaire. Donc, qui dit populaire dit peuple. Puis le peuple, il n'y a pas juste une couleur puis une saveur. Il y a plein de monde dans ce qu'on appelle le peuple. C'est-à-dire nous tous et les autres. C'est que là, moi, je te fais ma lecture. Ce que je vois, c'est que c'est en train de se crisper. C'est-à-dire qu'au début, c'était comme tout le monde est un peu gilet jaune. Et surtout, tous les partis politiques étaient donc gilet jaune, droite ou gauche. C'est que ceux de la gauche disaient « Ah, c'est nous, c'est le peuple. La gauche s'est toujours battue pour le peuple. » Puis ceux qui étaient à droite disaient « Regardez, là, c'est la majorité. » Moi, c'était mon analyse en premier. C'est la majorité dite silencieuse qui devient bruyante.
Ouais.
Et là, ce qui se passe, c'est que tu entends de plus en plus, c'est ce qui est rapporté, les revendications réelles. Parce qu'au début, c'était comme genre « il y a trop de taxes, puis il y a trop, puis c'était pas clair. » Là, ça se crispe. Mais sais-tu où que ça se crispe le plus? Ce que j'observe, c'est sur Internet.
Ah oui.
Sur Internet, ce qui est vraiment en train d'arriver, c'est que là, la gauche réalise que c'est d'abord et avant tout un mouvement de droite, et de droite de tout ce que la gauche déteste et ce sur quoi ils mettent la loupe. C'est-à-dire, ça crie en disant c'est de la faute à l'immigration, c'est la faute que les charges sociales, c'est trop haut, c'est qu'on est tout le temps en train de se faire taxer pour redistribuer, vous, les socialistes, tu comprends? C'est que là, ouais. Je vois des gens qui, habituellement, ont toujours une certaine, j'en suis beaucoup, là, ont toujours une certaine retenue dans ce qu'ils préconisent, etc., qui deviennent très fâchés. Là, la gauche en France est plus fâchée que je l'ai jamais vue. Parce que elle est comme obligée de réaliser que toute la bien-pensance, à un moment donné, c'est pas vrai que tout le monde est là-dedans. Il y en a.
Mais
là, je te parle pas du racisme, je parle pas
des points
exagérés, là.
Mais je me demande comment. Parce que, tu sais, quand tu regardes là, vraiment le mouvement des Gilets jaunes, là, c'était monsieur, madame, tout le monde. Qui trouve qu'ils payaient trop de taxes, trop d'impôts, trop de tarifs en général, qui étaient contre une hausse de tarifs sur...
C'est ça, la baisse du pouvoir d'achat.
Sur l'essence, notamment. Oui. Mais c'est des travailleurs, donc qui manifestaient le samedi parce que le reste du temps, ben, sont dans leur routine de travail. Absolument. Le gilet jaune, c'est le gilet qu'ils gardent dans le coffre de char parce que c'est des gens qui doivent prendre leur auto pour aller travailler.
Oui.
Moi, je comprenais mal comment la gauche réussissait à penser, revendiquer... une appartenance à ce mouvement-là. Pour moi, ça a toujours été un mouvement plus de droite. Mais pas de la droite identitaire, puis rien à voir avec l'immigration. La droite économique.
C'est ça.
Pour moi, c'est ça depuis le début. Ouais. Mais t'as raison de dire que, notamment dans la sphère politique, mais la gauche comme la droite se sont réclamés de ce mouvement-là.
Nous sommes avec vous.
Alors pour moi,
vous.
C'est comme une espèce de suite un petit peu logique, là.
Oui. Oui.
Que la gauche fasse comme, finalement, c'est-tu vraiment nous autres, ça?
Exactement. Puis là, c'est pas juste genre qu'à un moment donné, tu fais comme, on observe des trucs, c'est que je les sens très fâchés. Je les ai rarement vus fâchés.
Ah ouais?
Oui. Ben oui. Habituellement, les gens sont fâchés contre Québec solidaire. C'est pas Québec solidaire qui est fâché. Eux autres, ils amènent leur politique, ils voient ça autrement. Quand est-ce que tu trouves que Catherine Dorion est fâchée? Le monde sont fâchés contre Catherine Dorion, tu me suis?
Oui.
Ben là, tu le sens. Que là, ils sont fâchés parce qu'ils regardent les gilets jaunes, puis comme tu dis, ils sont en train d'échapper la moindre possibilité d'appeler ça un mouvement de gauche, un mouvement pour l'égalité. C'est pas ça. C'est un mouvement pour la droite française qui habite la campagne, les plus petites villes, la banlieue, puis encore pas la banlieue parisienne, parce que c'est hyper immigration.
Ouais.
Ça fait que là, t'as évidemment là-dedans des mouvements qui sont avec des débordements racistes, antisémites. Il y en a, mais il y en a tout le temps. C'est juste que là, tout à coup, tu peux mettre la loupe dessus puis dire, regardez, c'est tout ça le mouvement des... Non. Ça les fâche. C'est clair que ça les fâche. Ça paraît, là.
La suite va être d'autant plus intéressante parce que moi, comme je t'ai dit d'emblée, quand j'ai vu que le mouvement s'essoufflait, tous les analystes, d'ailleurs, disaient, ouais, mais là, le temps des fêtes arrive, l'hiver arrive. La tradition de la manifestation étant vraiment pas la même en France qu'ici, même si c'est énormissime, il y a de la casse, il y a des affrontements avec les policiers, il y a eu des morts. Tu sais, malgré tout ça, vous allez voir, ça va s'essouffler avec le temps des fêtes. Et comme de fait, c'est ce qui se produisait.
Oui, il y a une petite courbe.
Ça a descendu, ça a descendu. Mais même quand même, tu sais, il y avait vraiment de moins en moins de monde, là. Fait que là, tu te dis, les prédictions sont en train de s'avérer, tu sais, le mouvement s'essouffle.
Ouais.
Le gouvernement a fait des concessions. Il a augmenté le salaire minimum, ils ont annulé les taxes sur les carburants.
C'est ça.
Fait que tu te dis, tu sais, tout est en train de se replacer finalement.
Ouais.
Le mouvement aura été très intéressant à suivre, mais c'est la fin.
Oui.
Mais là, ce regain d'énergie-là, moi, celui-là, je t'avoue que je le comprends pas.
Ben, alors, je vais
essayer. Non seulement je l'ai pas vu venir, mais je le comprends pas.
Je vais te dire, d'après moi, ce qui se passe encore une fois, c'est que, puis on en a parlé il y a pas si longtemps, c'est la médiatisation de ce mouvement-là est portée par France Inter, par LCI, en tout cas, bref, l'équivalent de La Presse, Le Devoir, tu comprends, Radio-Can, est portée avec la loupe sur ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'ils commencent à trouver ça fâchant, le mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu penses que les Gilets jaunes qui voient ça se disent? Vous êtes encore en train de nous taper dessus.
Ouais, c'est ça. Écoute, l'élite bien pensante est encore en train de nous dire quoi faire.
Il y a une fille qui a fait une toune, c'est tellement drôle, c'est hurlant. Ils sont avec des gilets jaunes sur une musique de Michel Fugain, Les Gentils, les Méchants, là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Les Gentils.
Ah oui, là, les Méchants.
Exact.
Ah,
mais
oui,
là, c'est comme, ils écoutent LCI, Les Gentils. Ils veulent juste faire manger leur enfant, Les Méchants. Toute la toune elle-même, c'est super drôle. Mais ça les énerve.
Ouais,
ça les énerve au cube,
c'est
comprends?
Sûr. Ben les foulards rouges, il y a une espèce de bribe de mouvement à l'opposé des gilets jaunes, ceux menés justement par ces gens qui disent c'est beau, c'est assez, on a eu ce qu'on voulait, la casse aussi, on est contre ça.
Oui.
En contrepoids donc des gilets jaunes.
Oui.
Encore une fois, pour moi c'est une suite logique, mais il demeure que
c'est anecdotique. Là. C'est pas un
mouvement. C'est ça, c'est anecdotique.
C'est ça.
Au début, tu regardes ça et tu te dis, c'est comme l'espèce de contre-pouvoir, ça a du bon sens.
Oui.
Mais c'est loin d'être terminé.
Bien malin, celui qui va dire c'est quoi la semaine prochaine.
Ah oui.
Tu comprends?
Absolument.
C'est comme, moi, je me réjouis de rien de tout ça. Je fais juste te dire, c'est mon analyse, tu sais. Mais après ça, ça peut s'éteindre, ça peut. Je sais pas.
On s'arrête pour une première pause. On revient avec quelques nouvelles dans quelques minutes.